Radio Star Berlin.
Morning Edition.
France Inter, le 18-20.
Il joue sa vie politique, c'est ce qu'on dit de Benjamin Netanyahou à propos des élections de demain en Israël, des législatives auxquelles il a été contraint. Mais l'homme a parfois plus de vie qu'un chat, et on voit ça avec notre invité très vite. Le bruit du monde est au Rwanda ce soir, où l'on change sa religion catholique pour l'islam, et encore aujourd'hui, c'est une conséquence du génocide. Amélie Perrier, elle, vous fera entendre le brouhaha de l'Inde en pic de pollution, tenez-vous bien, saisonnier. 18h50, le monde selon Trump, saison 3 à Grégory Phillips, où l'on voit revenir le juge Kavanaugh, encore pour une affaire de harcèlement. 18h55, le monde à l'envers et Jean-Marc Four, le pétrole s'affole. Mais nous, on parle surtout de politique intérieure iranienne. Le monde est vaste et on n'a qu'une heure. Bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir de Valfond.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste correspondant de Haaretz, ici à Paris. Vous avez écrit notamment Unité 8200, c'est publié chez Léna Lévy, c'est un polar, on en profite, on le redit parce qu'on l'a bien aimé. Deuxième élection de Valfond, deuxième élection en 5 mois. Pourquoi celle-ci serait différente des autres?
Alors,
ou de la précédente, en tout cas.
Normalement, elle ne devrait pas être différente des autres. Seulement, lors des élections précédentes, Netanyahou n'a pas réussi à former son gouvernement. Et donc, il était supposé rendre son mandat, ce qui pour lui serait catastrophique. Ce n'est pas seulement sa survie politique qu'il joue demain. Ses proches laissent entendre que c'est sa vie tout court. En ce sens qu'il a tout de même 4 chefs d'accusation qui l'attendent, qu'un homme qui demandait à ses donateurs politiques une certaine marque de champagne rosé et qui n'accepte les glaces à la pistache que s'ils viennent du meilleur glacier de Jérusalem, je ne crois pas que les prisons de Rishon LeZion en Israël seraient à son goût.
Je comptais y venir après, mais on peut y aller maintenant. Ça veut dire que si, imaginons, scénario 1, il perd ses élections, il c'est directement à la casse-prison, ça se passe comment?
Non. D'abord, même s'il ne perd pas ses élections, il est supposé répondre à ses chefs d'accusation, contrairement à la France. Mais évidemment...
La mise en examen ne vaut pas démission en Israël.
Exactement.
Chez nous,
pour le Premier ministre, non. Pour les ministres, oui. Donc Netanyahou a joué là-dessus, bien sûr. Le Parlement ne comptait pas voir un Premier ministre accusé de 4 chefs d'accusation quand ils ont décidé qu'un ministre devrait démissionner. Mais lui ne démissionne pas et demain il va donc jouer le tout pour le tout. Effectivement, tant qu'il est en poste, il réussit à chaque fois à remplacer, disons, l'avocat général, même des juges de la Cour suprême grâce à son influence. Et donc il joue sur le temps. Par contre, s'il n'est plus à son poste, il n'y a plus de jeu sur le temps qui tienne. En octobre, il est déjà face à ses juges.
Vous pensez sincèrement qu'il il ne reste en politique que pour ça? Est-ce que c'est la seule raison qu'il maintient en politique, ce Benjamin Netanyahou?
Non, d'abord il y a un amour du pouvoir et de tout ce que cela comporte. Et en plus, il y a cette fascination avec l'argent. Alors, bien sûr, il aurait pu, comme citoyen libre, gagner des tonnes d'argent. Mais apparemment, son défaut, disons, c'est qu'il ne veut absolument rien dépenser. Comme Premier ministre, il ne dépense strictement rien. Il n'achète rien. Il n'a pas de carte de crédit dans sa poche. Il n'a pas de portefeuille. C'est une mania. Et donc, forcément, il y a ça aussi. Mais je pense que, sincèrement... Au départ, Netanyahou avait cette vision qu'il est le Messie, qui doit sauver Israël de ces gauchistes, de ces faibles d'esprit qui voudraient la paix avec un ennemi juré. Donc il y avait énormément de sincérité dans sa démarche, certainement lors de son premier mandat. Mais au fur et à mesure, on voit bien que, disons que s'il avait renoncé à cette élection en nommant un de ses fidèles ministres, celui-ci aurait été élu Premier ministre comme dans un fauteuil.
Je vous ai demandé en quoi cette élection était différente. Je vais vous reposer la question différemment. En quoi l'issue serait différente, au fond? Parce que là, si on regarde les derniers sondages, on est à 32-32 entre la coalition bleu-blanc et Netanyahou. Pourquoi l'issue serait différente? Pourquoi est-ce que cette fois, on trouverait une coalition, au fond?
Alors d'abord, comme il joue sur le temps, il n'est pas sûr du tout de trouver une coalition, mais il a gagné quand même 4 mois. Après, il y a ce qu'on appelle la fatigue. Par exemple, les électeurs arabes, qui sont quand même 20% de cette...
Et qui sont ensemble pour une fois.
Qui ont droit au vote. Déjà, ils ne sont pas chauds, mais alors là, c'est une lassitude extrême. Et donc, il joue sur le fait que ses fidèles à lui, et en particulier, bien sûr, les ultra-religieux, seront au poste demain dès 7h30 du matin pour voter pour lui. Et le reste, les gauchistes qui sont sans doute à l'étranger ou aux plages de Tel Aviv ou en train de se balader dans des musées, etc. Peut-être qu'ils ne viendront pas voter parce qu'ils en ont marre. Et s'il y a de ça aussi.
Les Arabes israéliens dont vous parliez à l'instant, qui sont ensemble en coalition pour une fois, qui ressemblent un peu à une coalition de façade, on ne sait pas très bien ce qui va se passer derrière, très honnêtement, mais est-ce que le fait qu'ils soient en coalition, c'est un gage qu'il y aura plus de gens pour aller voter? Parce que l'un des problèmes dans ce groupe-là, c'est une abstention record. Est-ce que cette fois, il peut y avoir plus de votes?
Alors, d'abord, on a un semblant d'exemple, puisqu'il y a déjà eu une coalition de tous les partis arabes qui, effectivement, a vu un taux d'abstention seulement semblable à celui des autres secteurs, juifs ou religieux. Donc, oui. Mais cette lassitude et cette fatigue, on peut y ajouter aussi un travail extrême de Netanyahou pour les intimider. Le Likoud continue de dire qu'il aura des observateurs dans tous les postes.
Il a voulu mettre des caméras dans les...
Qu'il filmera, quiconque arrive, etc. Donc il y a une menace voilée pour eux. Et d'un autre côté, bien sûr, de toute façon, ce n'est pas que le parti de centre-droit, qui est l'alternative à Netanyahou, représente pour les Palestiniens et pour les Arabes israéliens un espoir qui est sensiblement différent à cette impasse que Netanyahou mène.
La coupure, le point d'achoppement, la dernière fois, ça a été cette histoire d'exemption des ultra-orthodoxes au service militaire, et c'est Lieberman qui, à ce moment-là, avait fait défection. On sait bien que la coupure, désormais, en Israël, effectivement, elle est entre religieux et laïque. Quel a été le poids de cette question réellement, face aux questions économiques, face aux questions sécuritaires? Ça prend quelle place?
Je dirais presque que c'est plus important que les questions sécuritaires. Israël vit en ralenti une guerre de religion. Il y a donc ce qu'on appellerait les Israéliens laïcs, même si certains ne sont pas laïcs dans la définition française du terme. Et à côté de cela, il y a presque de 50% des électeurs qui, par exemple, n'allument pas le feu, le Shabbat, ne fument pas, etc. Ce taux va en grandissant au fil des années. Et donc, c'est une question extrêmement importante et ce n'est pas par hasard. Si cette fois-ci, Avigdor Lieberman, donc l'enfant terrible de la droite israélienne, on ne sait jamais
côté il va pencher.
Voilà, pour qui, en fin de compte, à qui va-t-il dire oui? Ce n'est pas par hasard s'il a choisi cette fois-ci de claquer la porte face aux ultra-religieux. Il comprend bien que jouer encore une fois la carte de « je suis plus à droite que Netanyahou à Gaza » n'aurait pas le même élan.
Non, et parce que les Palestiniens sont totalement absents de cette campagne, on n'en parle pas du tout, on a l'impression que ça n'intéresse personne, le processus de paix, ça fait des années qu'on n'en a absolument pas parlé. Pourquoi cette question des ultra-religieux prend une telle importance aujourd'hui? Est-ce qu'Israël a changé à ce point-là qu'aujourd'hui elle se voit, elle se vit, son identité est totalement différente?
Je pense que les religieux qui étaient donc au gouvernement dans la coalition de Netanyahou ces dernières années ont trop réussi. C'est-à-dire à vouloir prouver à leur électorat qu'ils remplissaient leur mission. Ils ont par exemple changé des manuels scolaires. Ils ont mis en question est-ce qu'il faudrait dire la théorie de l'évolution par exemple à la place de la science de l'évolution. Et donc ce sont des questions que pour les Israéliens laïcs on est sur une pente savonneuse qu'il faut absolument stopper maintenant parce qu'il est possible que dans 4 ans ça soit déjà trop tard. Donc ça a bien sûr un élan formidable. Le parti centriste d'ailleurs n'a pas seulement ces deux généraux sécuritaires, mais il a aussi Yair Lapid qui est un candidat, je dirais presque anti-religieux en termes israéliens et pas seulement laïque. Donc c'est la question clé et ces Israéliens-là, qui sont généralement du centre-gauche mais qui peuvent être d'une droite qui n'existe plus, seulement il faut bien voter pour quelqu'un et ils vont sans doute voter pour des partis qui sont contre les ultra-religieux. Ça peut être Lieberman et ça peut être le parti de centre.
Lieberman, il est crédité d'une dizaine de sièges, entre 8 et 10, ce qui est deux fois plus, grosso modo, que ce qu'il a fait la dernière
donc
fois.
Donc ça a bien réussi.
Exactement. auprès de qui ça marche le mieux, ce discours-là, désormais? Il y a une question de génération, il y a un clivage de génération ou pas du tout?
Non, je pense que c'est d'abord quand même son public de base, c'est-à-dire les Russes d'Israël, donc ceux qui ont fait leur alia de l'ex-URSS, c'est le public de Lieberman, ils ont des enfants. Donc cette deuxième génération peut-être ne votait pas Lieberman, peut-être il votait à droite ou à gauche, ou chacun ce qu'il voulait, et soudain, comme ils viennent tout de même avec ces idéaux laïcs bien ancrés, le fait qu'ils leur montrent que les ultra-religieux risquent de gouverner le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé, etc., cela joue chez ce public-là d'abord. Mais après, il y a énormément d'Israéliens, disons de centre, qui se disent « Tiens, lui, il va être plus féroce envers les religieux que ce parti de centre, que Yair Lapid, donc on va voter pour lui, ça existe aussi. »
Est-ce que ça changerait radicalement, la face d'Israël, vraiment le visage d'Israël, si les ultra-orthodoxes disparaissaient, ou en tout cas du paysage politique ou du paysage gouvernant? Est-ce que ça changerait radicalement?
D'abord, est-ce que ça tiendrait? Le seul gouvernement israélien qui était sans les religieux était celui d'Yitzhak Rabin, le premier gouvernement qui a bien dû démissionner. Et donc, on ne sait pas combien de temps un gouvernement pareil tiendrait. Après, cela ne changerait pas grand-chose vu que la démographie est clairement vers un Israël plus religieux, plus traditionnaliste du moins, et avec des ultra-orthodoxes qui remplissent de plus en plus leur fonction d'électeurs très assidus.
Alors, Dovalf, c'est toujours un peu une tarte à la crème de dire que c'est un référendum pour ou contre Netanyahou. Le fait est que c'est vrai, c'était déjà le cas la fois précédente, ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Je disais tout à l'heure en introduction qu'il avait plus de vie qu'un chat, ce Benjamin Netanyahou. Je voudrais qu'on aille faire un tour justement à Jérusalem avec Frédéric Mettezo et on se retrouve juste après.
Machane Yehuda est le cœur battant de Jérusalem-Ouest, avec ses commerces, ses cafés et ses restaurants que fréquentent les bobos israéliens, les juifs religieux, les touristes ou les expatriés. On y parle fort, on y mange bien et l'on vote avant tout Netanyahou, comme Yossi, vendeur d'épices, avec un portrait de Bibi au-dessus de son étal.
Maintenant, il y a des gens qui veulent se mesurer à lui comme Gantz. Imagine que moi, je t'amène là sur cet étal d'épices. Tu saurais être un bon vendeur en un seul jour? Non. Il faut apprendre et apprendre. Et alors tu sauras. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience politique ne peut pas immédiatement gouverner. Va d'abord à la Knesset, apprends quelques années, et ensuite tu pourras gouverner.
Netanyahou est un sujet inépuisable. Sa politique, son fils Yair qui tweete 200 fois par jour, sa femme Sarah obsédée par son image, et lui-même qui a grandi et travaillé aux États-Unis et qui a présidentialisé ses campagnes, raconte l'ancien diplomate israélien Freddy Eitan, auteur d'une biographie du Premier ministre.
C'est la personnalisation et non pas le parti. C'est-à-dire, on vote Netanyahou, on ne vote pas plutôt Likoud.
Mais il faut aussi convaincre les électeurs. Netanyahou a su sentir les aspirations de l'électorat traditionnel du Likoud et ramener à lui les déçus de la gauche, explique Philippe Velila, essayiste politique.
Le pays est passé à droite un petit peu avant le reste du monde occidental et ce sont les pauvres qui votent à droite. C'est une population de frustrés, le prolétariat essentiellement séfarade, et ils reprochent à l'establishment travailliste de les avoir dénigrés, etc. Et puis, les thèmes traditionnels de la droite, le libéralisme en économie, la sécurité intérieure, la sécurité extérieure. Toute sa campagne est orientée autour du thème « c'est moi qui protège le pays ».
Tout au long de ses mandats, Bibi a pactisé avec les religieux et la droite la plus radicale, et quand il le fallait, avec aussi des personnalités travaillistes ou centristes. Mais le tacticien n'a jamais recherché le consensus, constate Rina Matzlia. Elle est la journaliste politique vedette de Channel 12, la chaîne la plus regardée en Israël.
Les orthodoxes contre les laïcs, les arabes contre les juifs, la population contre la presse, c'est plus divisé qu'avant.
Bête de médias devenu activiste des réseaux sociaux, Netanyahou est toujours à l'initiative. Ces derniers jours, il a parlé de sites nucléaires secrets en Iran, d'annexion de la vallée du Jourdain ou d'intervention à Gaza. Les médias semblent lassés, mais qu'en sera-t-il des électeurs? Dans son clip de campagne, Bibi les interpelle.
Ezo mesiba, ezo chagiga, al tishkechu la'asot davar echad.
C'est la fête, mais n'oubliez pas de voter demain.
Israël,
Yafa, Mutzlachat, Yeshkanet, Akon.
Frédéric Mettezo pour le reportage. Merci beaucoup Frédéric. Dov Alphon, on le disait en même temps qu'on écoutait le reportage de Frédéric, il me racontait tout à l'heure qu'il avait rencontré quelqu'un là-bas qui lui disait que cette élection n'a jamais été non seulement aussi indécise, mais surtout aussi dégoûtante. Oui, est-ce que vraiment, par rapport aux autres...
Ah oui, largement. Il y a énormément de coups bas, c'est très personnel. Netanyahou même... qui se moque ouvertement de journalistes, il a les oreilles écartées, il a un gros nez, il me déteste, des mensonges flagrants dans sa page Facebook. D'ailleurs, Facebook aux États-Unis a décidé donc de lui fermer sa page pendant 24 heures, ce qui il y a peu de premiers ministres au monde qui ont eu cette sanction.
Hein. Non, c'est assez inédit.
C'est assez inédit. Donc c'est très bas, c'est très violent et je ne sais pas si ça va influencer le résultat, mais il est possible que les gens en ont marre. Et ils en ont marre aussi de ça.
Alors, est-ce qu'on peut imaginer, on arrive à la fin de cet entretien, est-ce qu'on peut imaginer, ou est-ce qu'on rêve, une espèce de grande coalition pour le bien du pays, fermez les guillemets, où, quel que soit le vainqueur au fond, on se retrouve avec Likoud et coalition bleu-blanc.
Est-ce que c'est... Tout à fait, c'est un scénario non seulement plausible,
mais probable ou pas,
probable si Netanyahou est poussé dehors par son parti. Donc, si on arrive encore une fois à cette impasse, par exemple 32-32 ou 33-32, loin du Brexit, ce qui va se passer, c'est que le parti conservateur en Israël va sans doute demander à Netanyahou de quitter. On dit souvent que les gens du ministère des Finances, quand ils étaient au Louvre, disaient qu'ils ne sortiront d'ici que par la force. Ça va être
que
ça aussi.
Par la force des baïonnettes,
ouais. Il va sans doute y avoir la police si on veut vraiment extorquer Netanyahou de ce fauteuil. Mais le Likoud veut sa survie.
Ça veut dire que le Likoud doit tuer Netanyahou. Disons les choses alors.
Si c'est le même résultat, il faut tuer le père.
Un scénario à la Thatcher quand elle est partie,
tout à fait,
etc.
Tout à fait. C'est très vraisemblable.
Eh ben écoutez, on n'a plus qu'à attendre les élections, les résultats. Les élections, c'est demain, les résultats évidemment un peu plus tard. Et puis ensuite, on verra comment se mettent en place ces coalitions. Dov Alphon, toujours un plaisir. Merci beaucoup.
Merci.
À très bientôt.
Le 18-20, Fabienne Saint-Esse sur France Inter.
Dans la prochaine demi-heure, le bruit du monde est au Rwanda, où l'on est de moins en moins catholique, de plus en plus musulman. Et encore aujourd'hui, c'est une des conséquences du génocide. Amélie Perrier, sous les radars.
On ira en Inde où on se prépare à entrer dans la saison de la pollution. Oui, il y a une saison de la pollution.
Allez, le monde selon Trump et Grégory Phillips. Où on repart du juge Kavanaugh, Grégory?
Oui, et la composition de cette fameuse Cour suprême au cœur d'un nouveau bras de fer politique entre républicains et démocrates.
Et à tout à l'heure, juste avant 19h, le monde à l'envers, Jean-Marc Faux.
Bonsoir.
Bonsoir Jean-Marc. Le prix de l'essence dépend directement de la politique intérieure iranienne au fond.
Je vais faire Tintin au pays de l'or noir. Menons l'enquête sur l'attaque contre le pétrole saoudien.
Allez, à tout à l'heure, tout le monde. Le tour de la planète n'est pas fini. Il passe par Tobago, l'île de Calypso Rose, Calypso Blues, sur Inter.
Shrimp. feet she heard from Jews. His pocket full of empty. He's got the calypso blues. These jockey girls give him a scare. His blacky roots and blondy hair. Her eyelash falls, her face is pink. And perhaps not the girl she ain't. She jitterbug when she should waltz. I even think her name was false. Calypso girl is good a lot. It's what you see, it's what you got. So sitting at the ocean, your heart you feel so sad. You ain't got the money to take she back to Trinidad. Sitting by the ocean, your heart she feels so sad. Because you ain't got no money to take she back to Trinidad.
Le bruit du monde est au Rwanda. Ce soir, nous sommes dans les rues d'une petite ville, nous sommes au nord-ouest. Le Rwanda qui a longtemps été le pays le plus catholique d'Afrique et qui est en train de devenir de plus en plus musulman. Ce changement date du génocide et il ne s'est jamais démenti. La protection offerte pendant le génocide par les musulmans a convaincu des milliers de personnes de changer de religion. Beaucoup de prêtres, en revanche, ont laissé les églises devenir des lieux de tuerie pendant que les mosquées, elles, étaient de refuge. C'est l'histoire que nous raconte François Humphrey Kataji.
Mourkifa Sultan se souvient parfaitement de ce jour de l'année 2002, le jour où il s'est converti à l'islam. Vêtu d'une longue camise bleu nuit, il est assis au fond de sa petite échoppe qui jouxte la mosquée de Gisenyi, une ville au nord-ouest du Rwanda. Catholique et tutsi de naissance, l'homme a perdu deux oncles et sa tante tués lors du génocide.
Comme vous savez, au Rwanda, nous avons passé dans des moments de génocide. Dans ce moment-là, j'étais très très petit. Mais avec l'histoire, j'ai trouvé que la communauté musulmane n'a pas participé aux actes de génocide. Ça m'a intéressé beaucoup. J'ai vu que ce sont des gens qui connaissent la valeur de l'humanité. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'entrer dans l'islam.
La passivité, voire la participation de nombreux prêtres de l'Église catholique lors du génocide, a terni l'image de l'institution religieuse. Au contraire, l'islam a pris un tout autre visage au sortir des événements dramatiques de 1994, où plus de 800 000 personnes ont été massacrées en 3 mois. Les musulmans représentaient 2% de la population avant le génocide. Aujourd'hui, ils sont 15%. Salim Sibomana, responsable de la communauté des musulmans rwandais dans la province du Nord.
Beaucoup de Tutsis sont devenus musulmans parce qu'ils nous disent « Vous êtes de bonnes personnes, vous n'avez pas tué, vous nous avez protégés. » C'est pour ça que nous allons devenir musulmans. Nous avons beaucoup de gens comme ça.
À Gisenyi, 200 Tutsis se sont réfugiés dans la mosquée de la ville. Salim Sibomana s'en souvient encore.
Personne n'a essayé de rentrer dans la mosquée parce que les gens avaient peur des musulmans. Ils disaient « Ah, les musulmans sont terribles. Si tu entres dans la mosquée, tu peux avoir des problèmes. » Nous avons utilisé leur peur afin qu'ils ne rentrent pas dans la mosquée. Cela a été très dur de garder ces 200 Tutsis, de les cacher, de les nourrir. Cela a vraiment été très difficile. Mais nous avons cherché des solutions pour y parvenir et nous les avons trouvées. Et cela a très bien marché.
Ce vendredi, le jeune imam de Gisenyi, Kagame Houssaini, prêche devant des centaines de fidèles. La mosquée n'est pas assez grande pour tous les recevoir. Chaque année, au mois d'avril, tous commémorent le génocide et parmi les plus anciens, certains ont reçu des récompenses.
Il y a beaucoup de musulmans qu'on donne les médailles. On les appelle abarinzi b'igihango.
Abarenzi Wigihango, les gardiens du pacte de sang, aussi appelés les justes du Rwanda. À Kigali, nous rencontrons le mufti du Rwanda, le cher Saleh Shimiyamana, qui confirme cette transformation rapide de la société rwandaise.
Nous avons des pasteurs, des prêtres catholiques qui se sont convertis à l'islam. Et maintenant, ils aident la communauté musulmane. Nous leur demandons de prêcher, ils vont avec nos cheikhs et nos imams pour enseigner l'islam.
Il sort son téléphone portable pour montrer des vidéos tournées au cours des derniers mois dans tout le pays.
Vous voyez ? Vous voyez ces femmes ? Tu vois, tous ceux qui lèvent la main, ce sont de nouveaux convertis.
On y voit des cérémonies de conversion réunissant plusieurs dizaines de personnes, levant le doigt en l'air et récitant la Shohada, la profession de foi musulmane.
En une session, vous pouvez trouver plus de 200 personnes qui se convertissent à l'islam.
L'histoire du génocide n'explique pas à elle seule la montée impressionnante de l'islam au Rwanda. L'influence grandissante de citoyens émiratis, saoudiens ou qataris qui financent des écoles, des dispensaires ou des mosquées dans le pays est aussi un facteur important. Autrefois largement discriminés et traités comme des citoyens de seconde zone, les musulmans représentent désormais une part importante de la société rwandaise.
François Humfer-Kataji pour le reportage au Rwanda. Merci beaucoup. Le bruit du monde est aussi sous les radars et Amélie Perrier est de retour. Et Amélie, ce qu'on entend là, c'est le bruit de la circulation à New Delhi. Donc il y a du monde et dans un mois s'ouvre une saison un peu particulière en Inde.
La saison des pics de pollution. Et pour préparer cette saison, eh bien, le gouvernement de la capitale indienne prend des mesures. Alors voilà, le ministre en chef de New Delhi, il s'appelle Arvind Kejriwal, il instaure 11 jours de circulation alternée. C'est la règle du pair, un pair en fonction de sa plaque d'immatriculation. Car chaque année, à partir d'octobre, la mégapole et ses 20 millions d'habitants, je vous le rappelle, se transforment en chambre à gaz. Alors le terme est effroyable, mais on l'emploie là-bas. La population s'asphyxie dans un brouillard toxique. Pourquoi le mois d'octobre? C'est la conjonction de plusieurs facteurs naturels. D'abord, il y a le froid, les vents faibles, et puis c'est des facteurs humains aussi, les brûlis agricoles, les émissions des industries et du trafic routier, les feux pour se réchauffer, mais surtout, c'est la saison de Diwali, la fête des lumières hindoue, où tous les Indiens font craquer des pétards et là, l'air devient irrespirable. L'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande de ne pas dépasser les 25 microgrammes de particules fines par mètre cube d'air, 25. Mais l'hiver à New Delhi, on peut dépasser les 1000 microgrammes. On estime qu'en 2017, la pollution de l'air a causé 1 200 000 décès prématurés en Inde. C'est selon une étude publiée dans The Lancet, la grande revue scientifique. La circulation alternée a déjà été décrétée depuis l'hiver 2016. Pour l'instant, les effets sur la pollution ne sont pas flagrants.
Croyez-vous en la sorcellerie? En tout cas, c'est un juteux business pour les trafiquants.
Les autorités colombiennes viennent d'en faire la preuve. Elles viennent de saisir 1400 fragments d'animaux. Il faut avoir le cœur bien accroché face à ce bestiaire un peu particulier. Il y a des sonnettes de serpents, le crâne d'un félin, des pattes de tapir, des têtes de toucan, des dents, des peaux. Ici, le secrétaire adjoint à l'environnement, Oscar Lopez. C'est pas ragoûtant, je vous assure. Le secrétaire adjoint à l'environnement, Oscar Lopez, au micro de l'AFP. Il nous dit que ces objets faisaient l'objet d'un trafic dans des locaux commerciaux. Les trafiquants vendaient illégalement des parties d'animaux, donc des os, des dents, des jambes, des peaux, en particulier d'animaux sauvages braconnés dans la jungle amazonienne. À tout cela pour fabriquer des amulettes ou des offrandes pour des rituels de sorcellerie. Cette grosse saisie s'inscrit dans le cadre de l'opération ancêtres, réalisés par des fonctionnaires et des policiers de la capitale, Bogota. La loi colombienne prévoit jusqu'à 8 ans de prison, de grosses amendes contre les vendeurs et les trafiquants d'espèces sauvages.
Et sinon, en Russie, Amélie, on a trouvé le moyen de combattre l'alcoolisme.
Alors, c'est pas de la sorcellerie, mais on n'en est pas loin. Alors voilà la scène, rapportée sur le site du Moscow Times. Des prêtres orthodoxes arrivent sur l'aérodrome de la ville de Tver, c'est à 200 km au nord de Moscou. Ils brandissent deux icônes et les chargent dans un petit avion à hélice, ainsi que 70 litres d'eau bénite. On les retrouve ensuite volant au-dessus de la ville, 400 000 habitants, et ils jettent l'eau bénite. Un moyen de sauver, selon eux, la population de l'ivresse et de la fornication. Et à ceux qui se moquent un peu comme vous en ce moment,
pas du tout.
Fabienne, voilà la réponse.
Pas du vin de messe, j'allais dire.
Voilà
ce serait contre-productif.
La réponse des prêtres, donc. Quelle est la blague? Que nous essayons d'aider les gens à se débarrasser des maladies, nous préconisons de mettre fin à la consommation d'alcool, de drogue et à la fornication. Est-ce risible? Oui, je vous le demande, Fabienne.
Eh bien, pas du tout, mécréante, sans doute efficace. Peut-être autant que le lancer de pâte de tapir. Allez savoir. Allez, les Blackies sur France Inter pour faire le pont. Tiens, jusqu'aux États-Unis. City Land and Miss You, c'est dans la playlist. Around and Miss You, signé les Black Keys, et c'est sur France Inter. Allez, direction les États-Unis.
France Inter, un jour dans le monde.
That information that was false and fake.
Le monde selon Trump et Grégory Philippe, saison 3. Grégory, on reparle de ce juge à la Cour suprême, Brett Kavanaugh, qu'on avait un peu oublié. Il a été nommé il y a un an par Donald Trump, alors que plusieurs femmes l'avaient accusé d'agression sexuelle au début des années 80. Et donc?
Oui, vous vous souvenez, c'était l'an dernier, à la même époque, le processus de nomination de ce juge conservateur Kavanaugh à la Cour suprême avec cette incroyable audition de son ancienne camarade de lycée, Christine Blasey Ford.
I believed he was going to rape me.
Devant les sénateurs médusés, elle avait alors accusé Brett Kavanaugh d'avoir tenté de la violer lors d'une soirée lycéenne. Le magistrat s'était défendu assez maladroitement d'ailleurs, puis sa nomination finalement avait été validée par le Sénat. Et bien dans un livre à paraître, Brett Kavanaugh est accusé par une autre femme d'exhibition sexuelle lors d'une autre soirée quand tous les deux étudiaient à Yale. Résultat, au moins 5 candidats à l'investiture démocrate appellent aujourd'hui à la destitution du magistrat qui siège donc dans la plus haute juridiction du pays. Appel relayé aussi par la représentante démocrate du Massachusetts, Catherine Clark, c'était hier sur MSNBC.
Si on veut changer cette culture du harcèlement sexuel dans ce pays, il faut qu'on prenne ces enquêtes au sérieux. Et si les faits sont concluants, alors il faut envisager une destitution du juge Kavanaugh.
Et Fabienne, c'est une véritable guerre politique qui débute parce que Donald Trump, dans une série de tweets, défend le juge qu'il a nommé, car écrit le président, Kavanaugh est à nouveau la cible des gauchistes radicaux et des médias pipeaux. Trump qui suggère d'ailleurs au ministère de la Justice de voler à la rescousse du magistrat.
Tiens, puisqu'on parle de Cour suprême et rapidement, Grégory, comment va RBG, Ruth Bader Ginsburg, qui a des problèmes de santé, qui elle aussi évidemment est juge à la Cour suprême?
Oui, alors elle vient d'être traitée pour un nouveau cancer du pancréas, cette fois RBG, comme on la surnomme ici, à 86 ans. Elle est l'icône du camp démocrate et progressiste. On l'a aperçue il n'y a pas très longtemps à une cérémonie organisée par l'université de Buffalo dans l'État de New York. Elle a tenu à rassurer sur son état de santé. Alors oui, santé fragile et inquiétude des démocrates, parce que si elle devait démissionner ou pire, ça permettrait effectivement au président Trump de nommer un troisième juge conservateur au sein de cette Cour suprême, après Gorsuch et Kavanaugh.
En bref, Grégory, quand un ancien porte-parole de la Maison-Blanche, tenez-vous bien, participe à l'émission Danse avec les stars, sérieusement.
Oui, c'est vrai, c'est sérieux. Vous vous souvenez de Sean Spicer, le porte-parole de la Maison-Blanche,
éphémère,
qui jurait que Washington, éphémère, il avait juré que Washington avait connu une foule immense le jour de l'investiture de Donald Trump. Et bien ce soir, on va le voir là-dedans. La 28e saison de Dancing with the Stars débute ce soir sur ABC, avec donc la participation exceptionnelle de Sean Spicer. On se demande un petit peu ce qu'il va faire là-dedans, et on ne sait pas encore s'il est vraiment doué pour le foxtrot ou le paso.
Bah écoutez, en même temps, je suis pas sûr que ce soit ça le vrai souci. D'un mot, enfin, est-ce que la semaine prochaine vous assisterez à New York à une rencontre entre les deux frères ennemis, alors entre Trump et Rouhani, oui ou non?
Alors écoutez, ça paraît quand même assez compromis, surtout avec les attaques du week-end sur les installations pétrolières en Arabie Saoudite. Hier soir, Trump jurait sur Twitter n'avoir jamais dit être prêt à rencontrer le président iranien sans condition, sauf que le patron de la diplomatie américaine, Mike Pompeo, disait exactement le même, exactement le contraire il y a pile une semaine. A priori, c'est pas fait. À la Maison-Blanche, cependant, on nous laisse entendre que ce serait un formidable coup diplomatique pour le président, un peu comme il l'avait fait avec Kim Jong-un à Singapour. Donc attendons, on verra bien la semaine prochaine.
Et merci beaucoup Grégory de nous offrir une transition en or pour Jean-Marc Four. C'était un hasard puisque cette émission est entièrement improvisée. Merci beaucoup.
Fabienne Synthèse, le 18-20.
Le monde à l'envers et Jean-Marc Four. Donc Jean-Marc, deux attaques de drones contre les installations pétrolières saoudiennes avant-hier. Tout cela pourrait déclencher à terme une flambée des prix de l'essence. On y reviendra
dans le journal de 19h chez
Sébastien Paour. Tout de suite chez Sébastien Paour. Et on parle donc à nouveau de risque de guerre dans la région. Mais pour vous, ça pourrait au contraire pousser à la négociation à condition de chercher à remonter jusqu'au bout le fil de l'enquête après cette attaque. Et c'est votre monde à l'envers.
Alors on va essayer de jouer au détective, même si j'en conviens, il y a une part inévitable de spéculation dans cette région du monde où les doubles jeux sont la règle. Parce que quand même, si dans quelques jours ou semaines, vous voyez votre facture d'essence augmenter à la pompe, ça vaut quand même le coup de se demander pourquoi. Le risque, il est réel, puisque le cours du baril a augmenté de 12% pour l'instant aujourd'hui, et pour cause, avec ces deux installations pétrolières en flammes, 5% de la production mondiale est affectée, ce qui est énorme. Alors à qui la faute? Prenons une loupe, une carte, et on va essayer donc de jouer les Sherlock Holmes de base. Il y a un coupable idéal puisqu'il revendique l'attaque. C'est facile, ce sont les rebelles houthis du Yémen qui sont en conflit ouvert avec l'Arabie Saoudite. Ils ont des liens établis avec l'Iran et ils menacent déjà de nouvelles attaques. Sauf qu'il y a un truc qui ne colle pas. Selon plusieurs experts militaires, ils sont trop loin géographiquement, plus de 1000 km au sud, et ils ne possèdent sans doute pas des drones d'une portée suffisante. Prenons maintenant la loupe. Selon des images satellites que s'est procuré le New York Times, il y a une autre piste, un tir provenant d'Irak. Cette fois, nous sommes au nord de la cible et beaucoup plus près. 500 kilomètres à peu près. Et là, il y a un auteur possible, selon la revue Middle East Eye, qui est généralement bien informé sur ces sujets. La milice chiite Hasht al-Shaabi. Elle possède la technologie suffisante et elle serait entourée de conseillers iraniens. C'est sans doute à cette conclusion qu'est arrivé le patron de la diplomatie américaine Mike Pompeo pour affirmer hier l'Iran vient de lancer une attaque sans précédent.
Enfin, dans les deux cas, donc de toute façon, ça nous ramène à Téhéran et ça ne change pas grand-chose.
Si. Alors, c'est oui et non. C'est-à-dire que ce n'est pas terminé. Une fois qu'on a dit Téhéran, on n'a pas fini de remonter le fil. Ça devient encore plus compliqué, cela dit. Téhéran, c'est grand. Pour le dire autrement, le pouvoir iranien, ce n'est pas un bloc monolithique. Il a beau être particulièrement opaque, on sait que plusieurs forces s'opposent en son sein. Pour faire simple, les durs, les conservateurs, face aux réformateurs et aux progressistes. Tout le monde est guidé, évidemment, par la même fierté, la même volonté de défendre le pays, mais la stratégie diffère grandement. En l'occurrence, il y a de bonnes raisons de penser que la milice irakienne dont je vous parlais a plutôt des liens avec les durs du régime à Téhéran. Et à ce moment de l'enquête de Sherlock Holmes, on sort la question classique. À qui profite le crime ? Réponse, probablement là aussi aux plus durs qui cherchent la confrontation avec Washington. J'ai nommé les passes d'Aran, les gardiens de la révolution. D'ailleurs, ils ne s'en cachent même pas. Un ancien membre de leur bureau politique a parlé hier d'un avertissement à Washington. Et le général qui dirige la division aérospatiale des passes d'Aran a embrayé en se disant prêt à un conflit armé à grande échelle. Il ajoute que toutes les bases américaines situées à moins de 2000 km de l'Iran seraient menacées. Il faut comprendre aussi que les gardiens de la révolution iranien restent très puissants et pour cause, comme ils contrôlent l'essentiel de l'économie parallèle, ils souffrent moins que les autres de l'embargo économique américain. Donc on se résume, de la pompe à essence, de votre pompe à essence, on peut remonter jusqu'au dur du régime iranien. En tout cas, c'est une hypothèse plausible.
Mais alors, pourquoi cette attaque maintenant ?
Alors là encore, on peut formuler une hypothèse simple. Elle est un peu caricaturale, mais elle est simple. Ils ne veulent pas de la paix. Et ces derniers jours, on avait justement fait des petits pas dans la direction de l'apaisement avec cette médiation française, plutôt efficace jusqu'à présent, avec la mise à l'écart, on en parlait ici même il y a quelques jours, du va-t-en-guerre John Bolton à Washington, et avec donc cette rumeur persistante d'une rencontre au sommet Trump-Rouhani la semaine prochaine en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Hein, Grégory Phillips s'en faisait l'écho à l'instant. C'est une perspective qui est proprement insupportable pour la frange dure du régime iranien. Donc, après cette double attaque, mission accomplie, le risque de conflit reprend le dessus, vu que Trump va forcément vouloir défendre les automobilistes américains. N'oublions pas, tout ça, c'est aussi une histoire de pompe à essence. Donc dans cette affaire, les faucons des deux côtés sont des alliés objectifs, ils poussent au crime. C'est maintenant que ça devient dangereux, parce que les apprentis sorciers sont nombreux, ils ne manquent pas de moyens, et c'est précisément là, on a envie de dire, que des leaders éclairés devraient se tendre la main pour chercher une porte de sortie. Réaliser que les durs cherchent à vous manipuler en frottant des allumettes, et qu'après il sera trop tard. Réaliser que c'est donc le moment ou jamais pour négocier. On peut toujours rêver.
Allez, et on y revient donc dans un instant, le monde à l'envers. Signé Jean-Marc Four, comme tous les jours, dans Un jour dans le monde. On reste ensemble, comme chaque soir également, pour Le Téléphone sonne, juste après le journal de Sébastien Paour. Ne bougez pas.